Mon coin de nature. Une rencontre en terre d'Occitanie avec Éric Leclerc.
Frère Joël, bonjour.
Bonjour, Éric.
Vous êtes père abbé à l'abbaye bénédictine de Tournai, ici dans le diocèse de Tarbes-Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, à une vingtaine de kilomètres de Tarbes.
20 kilomètres de Tarbes, 20 kilomètres de Lannemezan et 40 kilomètres de Lourdes.
Le 2 juillet 1951, le premier coup de pioche pour la construction de l'abbaye est donné solennellement par Monseigneur Théas, évêque de Tarbes et Lourdes. Mais avant d'être à Tournai, les moines étaient installés dans le nord du département des Hautes-Pyrénées, à Madiran.
À Madiran, où les premiers moines sont arrivés en fait vers 1934 pour être les chapelains d'une communauté de sœurs qui était fondée par l'abbaye de Dourgne dans le Tarn. Et 20 sœurs étaient arrivées pour mener la vie monastique à Madiran. Et 20 sœurs, il leur fallait au moins 3 chapelains. C'est comme ça que 3 frères d'Ancalca ont été amenés à venir pour célébrer la messe et être présents auprès des sœurs. Et puis, petit à petit, notamment après la guerre, des questions un peu compliquées et variées, mais surtout une question de géographie. On va dire le monastère était très restreint dans le village de Madiran. Le terre exploité était à plusieurs kilomètres, ce qui ne facilitait pas le travail. En plus, il n'y avait pas de maison d'accueil, puisque le monastère était un ancien prieuré du XIe siècle qui se trouvait en plein dans le village. Et puis, il y a eu des problèmes, on va dire, un petit peu administratifs ou de convivence avec la municipalité qui était très radicale socialiste. Et notre prieur de l'époque était vendéen. Alors, ça fait un peu de temps des étincelles. Voilà. Et pour des raisons techniques, notamment question d'approvisionnement en eau, la municipalité a fait comprendre que ça serait bien si les communautés pouvaient quitter. Les communautés commençaient à être nombreuses dans les années 50. Et donc, la décision a été prise. Il a fallu que les sœurs déménagent, alors qu'elles avaient elles-mêmes construit complètement un monastère. Et elles ont trouvé à Auzon, le village à côté de Tournai, un petit château qui leur permettait de construire ensuite leur monastère. Et par délicatesse, nous avons voulu nous rester solidaires et donc nous installer au plus près des sœurs dans le village de Tournai. La communauté d'aujourd'hui, nous sommes 20 frères résidents à Tournai. C'est devenu une communauté internationale. Ce serait peut-être trop long d'expliquer toute l'histoire, mais aujourd'hui, nous sommes donc 14, j'allais dire, Gaulois. Il y a ensuite 4 Brésiliens, ce qui est la conséquence d'une fondation que l'abbaye de Tournai a faite au Brésil en 1961 et qui a été fermée en 2009 pour diverses raisons. Mais la semence, c'est-à-dire monastique, a été semée là-bas, cette terre du Brésil, et des fruits sont venus ensuite fleurir ici, sur cette terre de Tournai. Donc 14 Gaulois, 4 Brésiliens. Il y a aussi 2 Vietnamiens, suite à un partenariat que nous avons établi avec une de nos communautés sœurs du Vietnam, où il y a beaucoup de jeunes donc qui viennent là pour un séjour de 2 ou 3 ans. Et nous avons aussi 2 Malgaches. Donc ce qui fait 20 moines aujourd'hui qui essayent de vivre ensemble l'évangile de Jésus. Plus alors, nous avons accueilli aussi, c'est signe de notre, je crois, capacité de charité, d'être ouvert en tous les cas, nous accueillons l'ancien libraire des sanctuaires de Lourdes, Bruno Tellier, qui suite à un accident de santé s'est retrouvé tout seul et ne pouvait pas vivre tout seul, et compte tenu de son désir de prière et de vie avec d'autres, nous a demandé si nous pouvons l'accueillir. Donc nous l'accueillons dans notre infirmerie et les choses se passent bien. Il y a un contrat qui prévoit son séjour parmi nous et aujourd'hui nous sommes heureux de l'accueillir.
Vous avez toujours été une vingtaine de moines ici ?
On peut dire que vingtaine, c'est peut-être une moyenne, en ce sens que la communauté n'a jamais dépassé 40 frères dans les années 60, ce qui était dû aux grandes années riches d'entrée dans les séminaires et dans les communautés religieuses, après les 5 ans notamment de prisonniers, beaucoup de jeunes n'avaient pas pu entrer ni au séminaire, donc il y a eu de grosses années d'entrée. Et donc dans les années 60, voilà, la communauté, 38, 39 je pense, n'a jamais été 40. Ensuite, il y a eu les années difficiles du temps du Concile, avec pas mal de départs, il faut le reconnaître. Et puis aujourd'hui, nous sommes en gros stabilisés autour d'une vingtaine, ce qui est un bon chiffre pour vivre ensemble. Surtout avec cette particularité de l'interculturalité, de l'international et de l'intergénération. Notre doyen a 92 ans la semaine prochaine et notre plus jeune a 32 ans. C'est un jeune du Gers qui est arrivé l'automne dernier. Donc c'est une belle communauté. Alors nous appartenons à ce que l'on appelle la congrégation de Subiaco-Moncassin, qui est la réunion depuis déjà un siècle et demi d'un certain nombre de monastères. Cette congrégation comporte aujourd'hui 65 monastères répartis sur les 5 continents, répartis en provinces, et nous sommes, nous, membres actifs de la province française qui regroupe 6 monastères, la Pierre qui vire, le plus ancienne par ordre de fondation. Ensuite, il y a eu Belloc en 1875, Landévennec en 1878, Ancalca en 1890, Tournai dans les années 30 et la reprise après la Deuxième Guerre mondiale, 44-45, de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Nous formons donc la province française de la congrégation de Subiaco-Moncassin.
Alors, frère Joël, comment les jeunes frères sont-ils formés ?
Alors, tout dépend un peu de leur formation antérieure. Mais le principe dans la vie monastique est de permettre à chaque candidat d'avoir une formation qui corresponde à ses attentes et à ses possibilités. Donc, il y a différents processus. Disons, il y a le processus monastique, qui lui est le même pour tout le monde, qui que l'on soit et d'où que l'on vienne, qui commence toujours donc par un temps préalable de connaissance, venir en stage, venir connaître l'abbaye. Et puis, lorsque le candidat prend une décision, si elle est validée par la communauté, il vient comme postulant. Un postulat qui dure en gros 6 mois. Et au bout de 6 mois, si tout se passe bien et s'il continue à demander, il franchit la première étape religieuse, il devient novice. Et dans notre congrégation, le noviciat dure 18 mois. Pendant ces premiers temps, 6 mois de postulat, 18 mois de noviciat, essentiellement une formation biblique, une formation à l'histoire de notre communauté, de la vie monastique, et une formation, je dirais, aux bases catéchétiques. Quelquefois, certains jeunes qui se présentent n'ont pas un parcours chrétien tout à fait charpenté, donc il faut revisiter le credo, etc., des choses que nous faisons pendant ces 2 premières années, et ils participent intégralement à la vie de la communauté pour ce qui est de sa vie de prière, sa vie de travail, sa vie fraternelle. Lorsque le novice arrive en fin de noviciat, il y a des étapes de validation par la communauté et s'il le demande, il peut être accepté à prononcer ses premiers vœux, des vœux qui sont de toute façon temporaires, qui durent un minimum de 3 ans et un maximum de 9 ans, ce qui laisse quand même le temps. Et là, c'est un vote de la communauté à la majorité des 2/3. Tous les prophètes qui sont déjà engagés acceptent le nouveau à la majorité des 2/3. D'ailleurs, dans notre fonctionnement, toutes les questions qui relèvent qui touchent les personnes sont toutes à la majorité des 2/3, pour dire l'attention que l'on porte aux personnes et l'intégration d'une personne, comme c'est pour toujours. Il ne s'agit pas de faire de bêtises, si je puis dire. Donc, 3 ans de vœux temporaires et ensuite, minimum, la profession solennelle, qui est un bel acte d'engagement où le nouveau venu, qui est déjà là depuis chez nous au minimum 5 ans, s'engage définitivement dans la vie monastique. Alors ensuite, parallèlement à cette formation monastique, comment trouver ou offrir une formation plus théologique, plus spirituelle ? Là, il y a plusieurs manières de faire, mais nous avons les moines français, bénédictins et aussi cisterciens trappistes. Nous avons inventé, il y a déjà plus de 20 ans, un studium de théologie intermonastère, dit le STIM, qui nous permet que les jeunes, quel que soit leur âge, mais puissent être formés théologiquement à partir de sessions qui durent 10 jours avec des enseignements de gens très compétents. Et le reste du temps, ils sont dans leur monastère à continuer à travailler intellectuellement, donc faire des travaux, faire des lectures, préparer des examens sous la responsabilité d'un tuteur. Donc la communauté s'engage à ce que le jeune qui entre au STIM et au moins la moitié de son temps pour ses études et accompagné, validé par un tuteur qui est un membre de la communauté. Et à la fin de ces trois premières années, il y a un diplôme. Le STEAM est, sous le patronage du Centre Sèvres, les Jésuites de Paris, ce qui lui donne son niveau canonique. Et pour certains qui peuvent encore continuer 2 ou 3 ans supplémentaires, ils peuvent obtenir le baccalauréat de théologie. Ce qui est une bonne chose aujourd'hui. Je pense que depuis le début du STEAM, il y a au moins une vingtaine de frères ou de sœurs, car le STEAM est mixte, qui ont passé leur baccalauréat de théologie, tout en continuant à mener la vie monastique. Tandis, ce qui est un choix vraiment prioritaire pour nous, car envoyer un jeune dans un séminaire, les motivations ne sont pas tout à fait les mêmes, même si pour beaucoup de cours, c'est les mêmes choses. D'ailleurs, il peut arriver que certains frères soient envoyés pour suivre 1 ou 2 cours à Toulouse. La proximité de Toulouse nous permet d'aller une journée passer 2 cours à l'Institut catholique en complément, etc. Donc, tout est possible. Mais le fond, c'est vraiment le STEAM.
À l'époque, un seul bâtiment avait été achevé. Quelles ont été les évolutions de l'abbaye ?
Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, 1951, premier coup de pioche sur un terrain qui est un petit terrain. Nous avons tout juste 5 hectares, ce qui n'est rien par rapport à des communautés aujourd'hui en France qui ont quelquefois 200 hectares de forêt, je pense à Notre-Dame-des-Neiges ou autre. Donc 5 hectares. Nous sommes dans une boucle d'une rivière, la Rosse, et le premier bâtiment a été construit donc assez rapidement, en moins d'un an, ce qui a permis aux premiers frères d'arriver avant le 15 août 1952. Et puis ensuite, dans la progression, ont été construits l'hôtellerie, où nous sommes en ce moment, avec son petit cloître et ses 15 chambres d'accueil. Puis a été construit l'église, dédicacée en 1958, et enfin un dernier bâtiment en 1963-64. Et ensuite, il devait y avoir encore un autre bâtiment qui finalement n'a jamais été construit, et je rends grâce aujourd'hui qu'il n'était pas construit, puisque ça nous fait un petit peu moins de toiture ou de bâtiments à entretenir.
Alors vous disiez, la Rose se passe donc au pied de l'abbaye de Tournai. Vous pouvez nous décrire un peu les extérieurs autour de l'abbaye ?
Alors l'extérieur, nous sommes donc au pied du pic du Midi, ce qui fait que nous avons un climat qui a l'incidence du climat montagnard.
Hein. On le voit le pic d'ici. Hein.
On peut voir le pic du Midi depuis les bâtiments, effectivement. Ensuite, par contre, nous sommes à 200 mètres d'altitude, donc c'est peu. Nous sommes à la périphérie du village, donc tout proche. Le clocher de l'église est relativement voisin de notre clocher. Ensuite, l'environnement, que dire, donc un village qui est un chef-lieu de canton, nous avons l'avantage d'avoir tous les services publics, administratifs, sanitaires, mairie, un petit supermarché, la banque, la poste, une pharmacie, les kinés, infirmière, 2 médecins, enfin pour tout ce qu'il faut pour que chef-lieu de canton.
Et vous êtes bien desservi puisqu'il y a l'autoroute A64 et le train.
Alors desservi par le train, jusqu'à quand la question peut se poser, mais enfin, pour l'instant, un certain nombre de trains s'arrêtent quand même encore à Toulouse. Et puis l'autoroute qui passe, qui est un petit peu une nuisance parfois, puisque notamment lorsque l'air est très léger, nous pouvons entendre un bruit de fond sur l'autoroute. Mais pour nous, ce n'est plus gênant aujourd'hui.
Mon coin de nature, Éric Leclerc.
Revenons sur les moines qui sont présents ici à l'abbaye bénédictine de Tournai. Quelle est leur mission ? Ils ont chacun une mission ?
Alors notre mission est double, si je puis dire. La première mission monastique est de vivre en communauté, de donner le signe que des hommes ou des femmes peuvent vivre ensemble sans trop de conflits, et s'il y en a, essayer de les résoudre. Donc c'est vraiment donner le signe de la communauté. C'est, je crois, notre première mission. Ensuite, pour donner ce signe de la communauté, nous menons une vie un peu en retrait de la vie du monde. On appelle ça la clôture. Et nous avons donc une vie de retrait, essentiellement bâtie sur trois piliers. Le premier est la prière en commun, et puis la prière personnelle. Le second pilier est le travail, ce qui est nécessaire. Nous devons vivre du travail de nos mains. Nous ne sommes assistés par personne. Nous ne recevons de subventions de personne. Donc il nous faut quand même assurer notre vie quotidienne. Et puis, troisième pilier, c'est la lecture, c'est-à-dire la nourriture, on va dire, nourriture intellectuelle, spirituelle. On ne peut pas s'engager dans notre genre de vie sans nourrir sa foi et donc être aussi au courant des grandes questions du moment, de l'évolution théologique, de la vie de l'Église, etc. Et tout cela, nous le vivons dans un écrin, si je peux dire, qui est la vie fraternelle. Voilà. Donc là, le dicton un peu connu de la vie monastique bénédictine, ora et labora, prie et travail, est juste mais insuffisant pour rendre compte de la totalité de notre vie. Donc notre vie est en fait bâtie autour de ces piliers. Nous avons chaque jour un temps pour la prière, un temps pour un temps, on va dire, personnel de formation, de culture, et puis un temps de travail, et puis le temps du repos nécessaire, le temps de la vie en commun.
La journée par la communauté, donc, est, comme vous disiez à l'instant, est rythmée, bien entendu, par des temps de prière. Cela commence le matin à 6h20, au lever du jour, avec l'office des Laudes.
C'est le premier office, premier rassemblement de la communauté. Saint Benoît dit au chapitre 22 de la règle que nous devons nous encourager les uns les autres à nous réveiller pour être dispo pour le premier office du jour, qui commence par ce beau verset du psaume: Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Donc on demande au Seigneur de nous ouvrir nos lèvres pour que toute la journée soit une journée de louange, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi intercession, il n'y a pas partage des souffrances du monde, mais louange. Notre vie est avant tout une louange. Ensuite, nous avons un long temps de temps personnel qui dure presque 2 heures. Donc la plupart du temps, nous prenons du temps pour lire la Bible, préparer l'évangile du jour, ou bien faire un travail intellectuel, etc. Et puis, nous avons l'Eucharistie à 9h30 du matin. Et j'aime dire que entre 6h et 10h15, si l'on veut bien, c'est vraiment tout pour Dieu. Ce qui sera vrai du reste, mais là, on ne s'occupe que de Dieu. Dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la méditation, et puis dans la célébration de l'Eucharistie. Puis après l'Eucharistie, on entre dans une période où il y a du travail. Donc chacun va à son travail ou à son service. Nous avons au milieu du jour un petit office qu'on appelle l'heure médiane, avant le repas de midi, et puis ensuite l'après-midi, longue après-midi de travail. Nous avons plus de 4 heures disponibles pour le travail, qui est souvent important, et clôturer l'après-midi par la prière de vêpres et le Magnificat, donc qui est aussi une action de grâce et une louange. Nous avons ensuite le repas du soir, une réunion de communauté, une réunion familiale, on va dire, où la communauté se réunit 4 fois par semaine pour partager, échanger. Une fois tous les 15 jours, le mardi, nous prenons un peu plus de temps pour ce que j'ai un peu initié il y a déjà quelques années en raison de notre interculturalité, pour un moment plus culturel. Nous essayons de regarder un film, de regarder un reportage, soit sur les pays d'où viennent les frères, soit sur un moment d'actualité. Et c'est souvent intéressant qu'il nous donne occasion d'un petit partage après. Et nous avons enfin la prière du soir à 21h, la prière des vigiles qui nous font entrer dans la nuit, et le temps du repos en gros entre 10h et 22h le soir et 6h le matin. Donc on a largement le temps de se reposer.
Alors frère Joël, est-il possible d'assister aux différents temps de prière ici à l'abbaye bénédictine de Tournai?
Notre église est normalement toujours ouverte. Nous avons eu quelques petits problèmes avec le confinement et autres, où il a fallu fermer notre lieu de culte. Mais sinon, habituellement, l'église est toujours ouverte de 6h du matin jusqu'à 22h le soir. Et en plus des heures de prière où les hôtes ou les passants sont accueillis, beaucoup de gens passent dans la journée faire une prière, déposer une intention. Nous avons cette année Saint-Joseph, un frère artiste qui a fait une très belle icône à l'entrée de l'église sur Saint-Joseph, avec une possibilité de faire un temps de prière à Saint-Joseph tout particulièrement. Donc l'église est toujours ouverte pour la prière, et quand c'est la prière de la communauté, les autres peuvent recevoir le psautier, la fiche pour suivre, disons participer vraiment viva voce à notre prière commune.
Alors, l'abbaye bénédictine de Tournai est aussi connue pour son atelier de fabrication de pâtes de fruits, hein, donc ici, tout près de l'abbaye. Hein.
Sur les terrains de l'abbaye, en fait, c'était les bâtiments de ferme d'autrefois, car quand la communauté est arrivée dans les années 50, Le travail était essentiellement un travail agricole, et puis l'évolution du monde, l'évolution du recrutement de la communauté, en fait, qu'il y avait de moins en moins de personnes du monde rural. Donc, dans les années 70, nous avons modifié notre outil de travail, et il y avait à l'époque un atelier de céramique qui a été clos il y a quelques années, 2004 je crois, et puis un atelier de pâtes de fruits. La première cuisson date du 6 août 1970, et aujourd'hui nous fabriquons autour de 10-12 tonnes chaque année, et c'est un très bel atelier qui permet d'occuper tous les frères qui le peuvent ou qui le veulent, depuis les plus jeunes qui arrivent jusqu'aux plus anciens qui peuvent encore aller passer une heure, deux heures. Il y a des travaux de petite main, et puis il y a des travaux un peu de, il faut en gros trois personnes vraiment compétentes pour la technique, mais sinon le reste c'est du travail de petite main que tout le monde peut faire, et c'est un bel outil de travail communautaire.
Avec quels fruits travaillez-vous ?
Je ne saurais pas vous dire exactement, mais nous avons réduit il y a quelques années. Avant, nous travaillions avec, je sais qu'il y avait jusqu'à une vingtaine de fruits, mais qui étaient en complément de la base, qui était la compote de pommes, des pommes venues de Bretagne. Mais nous avons changé pour modifier et rendre nos pâtes de fruits sans doute un peu meilleures. Donc nous avons supprimé la pomme, et aujourd'hui, c'est du pur fruit. Alors nous avons à la fois des agrumes et puis des fruits, ce qu'on appelle les fruits rouges, essentiellement, voilà, cassis, myrtille, framboise, cerise, et les agrumes, pamplemousse, orange, mandarine, il y a aussi de la banane, qu'est-ce qu'il y a encore, et puis des tas de recherches pour autre chose, car vous savez bien que dans le commerce, il faut toujours renouveler, donc nous renouvelons de temps en temps les boîtages, pour que les gens ne voient pas toujours la même boîte, et puis nous renouvelons aussi le contenu. Donc nous avons développé des pâtes de fruits, enfin, des choses dites aux fleurs, des choses aux épices, des choses... Enfin, bon, je ne suis pas tout au courant de tout, mais c'est assez varié. Et nous avons aussi à peu près 30% de la production de pâtes de fruits qui est enrobée de chocolat, qui est un produit peut-être plus au moment de Noël ou au moment des fêtes. Et alors là, tout ne va pas bien avec le chocolat, mais je sais particulièrement, il y a poire, orange, banane, peut-être cerise, enfin voilà, qui sont... Mais il faut venir goûter.
Est-il indiscret de vous demander la recette de fabrication des pâtes de fruits ?
La recette est une recette classique de cuisson de pâtes de fruits. Donc il faut le fruit, il faut du glucose, il faut un peu d'arôme quelquefois pour compléter, un peu de pectine. Puis ensuite, il y a un petit secret que je ne vous donnerai pas parce que je ne le connais pas moi-même exactement, mais qui est le secret de notre propre fabrication qui permet à nos pâtes de fruits, dans la durée, de rester, j'allais dire, douces ou molles au palais. Elles ne durcissent pas avec le temps. Ce qui est bienvenu pour les personnes anciennes, âgées, qui aiment bien les pâtes de fruits et n'ont pas de problème pour le dentier.
L'abbaye bénédictine de Tournai, c'est aussi un accueil monastique et une boutique, donc on peut trouver les pâtes de fruits.
Alors la boutique fait partie aussi un peu de notre travail, c'est une chose qui s'est développée ces dernières années, avec, disons, à peu près 50%, non, peut-être pas tout à fait 50%, mais une bonne partie encore de livres religieux, permettant aux chrétiens qui veulent trouver la dernière encyclique du pape ou un livre de référence pour un mariage, un baptême ou nourrir sa foi. Il y a beaucoup. Et puis le reste, c'est un peu des produits de type monastique. Alors, nos pâtes de fruits, nous vendons en fait dans notre magasin à peu près 30% de notre production, ce qui n'est pas négligeable. Le reste est vendu par des revendeurs ou par la boutique en ligne, puisque nous avons maintenant une boutique en ligne qui se développe de plus en plus.
Et vous avez un site internet aussi.
Un site internet et une boutique en ligne, le site internet www.abbaye-tournai.com.
Alors, frère Joël, merci.
Il n'y a pas de quoi, c'est bien volontiers.
Je rappelle que vous êtes père abbé de l'abbaye bénédictine de Tournai, située dans le diocèse de Tarbes-Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Merci.
Merci à vous et merci aux auditeurs de nous porter dans leurs prières aussi, comme nous essayons de le faire, de porter le monde entier dans notre prière quotidienne.
Merci.